Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans le polycopier, donc sur l'évangile selon saint Matthieu, nous en sommes dans le fichier donc des chapitres 1 à 5 de saint Matthieu, page 14. Nous en sommes, chapitre 2, verset 12. Donc nous venons de quitter les mages. Je vous rappelle les derniers versets qui précèdent celui qui va nous intéresser tout de suite. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit « Allez, informez-vous avec soin de l'enfant, lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Or, en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12, donc page 14 sur le polycopier. « Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. » Voilà un exemple frappant de ce que disaient les pères de l'Église sur un texte qui nous semble peu important. On pourrait dire, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. Bon, qu'est-ce que ça veut bien dire? Bon, ben, ils sont partis, ils ont pris un autre chemin, point final. Ils sont partis par tel chemin pour arriver en Palestine, ils repartent par un autre chemin. Très bien. En fait, ça a tout un sens. Et les pères de l'Église vont expliquer ce sens caché derrière la lettre du texte sacré. Lorsque, je résume en disant que lorsque nous avons trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous l'avons rencontré pour la première fois, ou nous l'avons re-rencontré après l'avoir perdu. Par exemple, si j'ai perdu notre Seigneur Jésus-Christ pendant une certaine période de temps, pendant de longues années peut-être, en vivant dans le péché, bien que baptisé, et puis avec la grâce du bon Dieu, après une bonne retraite, après une bonne confession, certaines grâces reçues, je retrouve notre Seigneur Jésus-Christ, je suis comme les rois, donc, qui arrivent à la crèche de Bethléem, je donne l'or, l'encens et la myrrhe, parce que je reconnais par l'or, je reconnais qu'il est roi, je reconnais qu'il est homme par la myrrhe, et je reconnais qu'il est Dieu par l'encens. Je retrouve notre Seigneur Jésus-Christ, je retrouve l'état de grâce par une bonne confession. Eh bien, je n'ai pas le droit de reprendre la vie que j'avais avant. Il est évident qu'une bonne confession ne suffit pas. Il faut aussi que cette bonne confession, cette communion nouvelle que je viens de faire en état de grâce, m'amène à changer les choses que je dois changer dans ma vie pour être sûr de ne pas retomber dans le péché. Donc, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays, ça veut dire ça. Ça veut dire que je dois éliminer de ma vie quotidienne les occasions prochaines, volontaires, de péché grave. Si je garde une occasion volontaire de péché grave, une occasion volontaire de péché grave, eh bien, je ne peux pas prétendre avoir retrouvé notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de le retrouver, il faut le garder. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet. D'abord, ils disent, ils admirent la foi naissante des mages. N'oublions pas que les mages sont des païens. Ils ne sont pas baptisés. Je vous ai déjà dit que c'est l'apôtre Thomas, saint Thomas, qui plus tard, dans le pays des rois mages, va demander au roi mage de se joindre à lui pour un temps, et il a pu ainsi les former, les enseigner, et ils ont reçu le baptême, et ils devinrent ses coadjuteurs de l'apostolat, disent les pères. Donc considérez, c'est à la page 14, premier paragraphe, considérez la foi des mages. Ils ne sont pas scandalisés de cet avertissement. Ils ne disent pas, mais si cet enfant est si puissant, s'il est Dieu, pourquoi cette fuite? Pourquoi ce retour secret? Un des caractères de la vraie foi, c'est de ne pas rechercher les raisons des ordres qui nous sont donnés, mais d'y acquiescer avec docilité. Et lorsqu'ils furent de retour, ils se montrèrent plus que jamais adorateurs fidèles du vrai Dieu. Ils en instruisirent un grand nombre par leur prédication, et lorsque saint Thomas apôtre arriva plus tard dans ces contrées, ils se joignirent à lui, et après avoir reçu le baptême, ils devinrent ses coadjuteurs dans l'apostolat. Il y a là une phrase des pères de l'Église qui me semble extrêmement importante pour nous. Un des caractères de la vraie foi, c'est de ne pas rechercher les raisons des ordres qui nous sont donnés, mais d'y acquiescer avec docilité. Je voudrais faire une petite remarque en changeant un mot. Un des caractères de la véritable obéissance, c'est de ne pas rechercher les raisons des ordres qui nous sont donnés, mais d'y acquiescer avec docilité. Je pense que l'exemple des rois mages doit pousser les parents à commander correctement à leurs enfants. Lorsque un père de famille, une mère de famille donne un ordre à un enfant ou un adolescent, il y a une réaction que vous ne devez pas supporter. C'est tout simplement la réaction d'un enfant qui va vous dire « Pourquoi ?» Ne tombez pas, mes bien chers parents qui m'écoutez, dans la tentation de toujours expliquer à vos enfants les raisons de l'ordre pour lequel les raisons pour lesquelles vous donnez cet ordre. Sinon, il n'y a plus d'obéissance. Si à chaque fois que vous devez un ordre, vous devez expliquer à votre enfant pourquoi, en long, en large et en travers, vous donnez cet ordre, vous faites disparaître complètement le mérite de l'obéissance. Lorsque vous donnez un ordre à votre enfant, quel que soit d'ailleurs son âge, tant qu'il est sous votre toit, bon, évidemment avec du bon sens, lorsque vous donnez un ordre à vos enfants, l'enfant doit obéir. Il n'a pas le droit de poser la question « Pourquoi ?» Et s'il pose cette question, il faut répondre « Parce que papa te le demande. » « Parce que maman te le demande. » Point final. Et en apprenant ainsi à obéir au doigt et à l'œil à ses parents, les enfants, surtout les enfants, apprennent la vertu d'obéissance. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, je ne vais pas y revenir parce que on va m'accuser de toujours répéter les mêmes choses, que la vertu d'obéissance est une vertu fondamentale et que si précisément les hommes modernes sont devenus dans leur immense majorité des nouilles, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Et je vous l'ai déjà dit très souvent, un enfant qui n'apprend pas à obéir est un enfant qui sera incapable de commander. Et donc si vous, à chaque fois que vous donnez un ordre à un enfant, vous sentez obligé d'expliquer à votre enfant pourquoi vous donnez l'ordre, bien vous détruisez la vertu d'obéissance et du coup votre enfant, une fois adulte, sera incapable encore une fois de commander. Et là on voit très bien chez les mages, c'est une remarque des pères de l'Église qui est très intéressante, ils disent bien, le caractère de la vraie foi, c'est de ne pas rechercher les raisons des ordres qui nous sont donnés. Ça c'est typiquement le monde moderne. Ils veulent des explications pour tout. C'est comme un petit peu en matière de foi, on peut toucher aussi d'autres sujets sur ce même verset. En matière de foi, c'est la même chose. Beaucoup de gens me disent, mais vous croyez des choses que vous ne voyez pas. Vous croyez par exemple que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie, que son corps, son âme et sa divinité, et pourtant, vous ne le voyez pas. Pourquoi est-ce que vous croyez des choses que vous ne pouvez pas contrôler par vous-même? Parce que justement, c'est là que s'exerce la foi. La foi ne s'exerce pas sur quelque chose qu'on voit. C'est la raison pour laquelle au paradis, il n'y a plus la foi. Plus besoin de la foi parce qu'on verra Dieu. Si je voyais déjà dans la Sainte Eucharistie l'humanité, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps et son sang avec mes propres sens, ben, j'aurais plus aucun mérite de croire. Et justement, l'Église nous demande de croire au mystère parce que l'autorité de Dieu est là et Dieu étant Dieu, commande et nous devons obéir. Et quand les enfants me posent cette question au catéchisme, monsieur l'abbé, pourquoi est-ce qu'il faut obéir sans comprendre certaines choses? Moi, je ne comprends pas la Sainte Trinité, je ne comprends pas l'incarnation, je ne comprends pas la rédemption. Pourquoi dois-je obéir? Je réponds toujours de la même façon. Moi non plus, je ne comprends pas la Sainte Trinité, je ne comprends pas l'incarnation, je ne comprends pas non plus la rédemption. Mais j'obéis pourquoi? Parce que le bon Dieu a un gros, 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 gros cerveau et moi j'ai un cerveau qui est de la taille d'un pois chiche. Et donc je ne vais pas poser des questions au bon Dieu et j'obéis. Et vous, enfant, qui avez un cerveau de la taille d'un tout petit pois chiche, vous devez aussi obéir. Et je pense que c'est important, on voit très bien dans tout le mystère de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte Famille, on voit très bien cette vertu d'obéissance qui est partout. Regardez la Sainte Famille. S'il y a un exemple à suivre, c'est bien celui-là. Le plus saint, c'est celui qui obéit. Le plus saint, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est créateur du ciel et de la terre. Il aurait pu dire à Saint Joseph et à la Sainte Vierge Marie, écoutez, comme chez moi le bon Dieu, c'est moi qui commande, hein. Non, il va obéir. La Très Sainte Vierge Marie est mère de Dieu. Elle est bien plus sainte que Saint Joseph, strictement parlant. Elle aurait pu dire, bon, mais puisque c'est moi qui suis la mère du bon Dieu, c'est moi qui vais faire la chef de famille. Et non, elle obéit à son mari. Et notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit l'Écriture sainte, c'est en Saint Luc, notre Seigneur Jésus-Christ leur était soumis. Donc notre Seigneur nous donne l'exemple de l'obéissance qu'on voit ici très bien chez les rois mages. Et c'est parce que les rois mages ont été obéissants, même s'ils n'ont pas tout compris, sans rechercher les raisons des ordres qui leur ont été donnés, ils ont acquiescé avec docilité, nous disent les pères, et bien c'est précisément pour cela qu'ils ont reçu la grâce de la foi, qui va commencer déjà à poindre dans leur cœur après la visite à la crèche de Bethléem. Et ensuite, ils vont recevoir la visite de saint Thomas qui va les baptiser, donc faire grandir par le baptême cette foi. Et ils vont tous les trois mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les trois sont martyrs. Deuxième paragraphe, page 14. Les mages, en retournant dans leur pays par un autre chemin, nous donnent une grande leçon. Deuxième point, très important. Notre patrie, disent les pères, c'est le ciel. Et après avoir connu le Sauveur Jésus, nous ne pouvons y retourner par la voie que nous avons d'abord suivie. Si j'ai suivi la voie de l'égoïsme, eh bien je dois changer ma voie. Si j'ai suivi la voie de l'insolence, je dois changer ma voie. Et ils expliquent, en effet, nous nous sommes éloignés de notre patrie, par l'orgueil, par la désobéissance, par l'attachement aux choses visibles et en goûtant aux fruits défendus. Nous ne pouvons y revenir que par les larmes, par l'obéissance, par le mépris des choses de la terre et la mortification des désirs de la chair. Donc les pères de l'Église font allusion à Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'est d'abord un péché de désobéissance, hein, un péché d'orgueil. Et comme ils ont désobéi, ils ont tout perdu. Le bon Dieu ne va pas leur dire, écoutez, c'est la première fois, on pardonne. Non, le bon Dieu les chasse du paradis terrestre. Le bon Dieu leur enlève complètement les quatre dons préternaturels qu'ils avaient reçus. Et ils se retrouvent avec plus rien. Simplement la promesse du Rédempteur. Elle écrasera la tête du démon. Donc le Rédempteur va venir par l'intermédiaire d'une femme, la Très Sainte Vierge Marie. Alors il faut méditer cette phrase. Donc si je me suis éloigné de l'état de grâce par l'orgueil, eh bien je dois pratiquer la vertu opposée à l'orgueil, à savoir l'humilité. Si je me suis éloigné du véritable, du bon chemin par la désobéissance, je dois rattraper le bon chemin par l'obéissance. Si je me suis trop attaché aux choses visibles, je dois maintenant rattraper en m'attachant aux choses spirituelles. Si j'ai goûté le fruit défendu, je dois donc justement faire attention maintenant par la mortification des sens, la mortification de la chair, la mortification du goût, rattraper mes bêtises passées. Et les pères de l'Église expliquent sur ce point-là à quel point il est important donc de pratiquer surtout trois choses pour réparer. Pour réparer les conséquences du péché originel en nous, pour réparer les conséquences de nos désobéissances passées en nous, trois choses, disent-ils. L'aumône, le jeûne, la prière. Pourquoi ? Parce que, à la suite du péché d'Adam et Ève, leur désobéissance, il y a trois concupiscences qui vont jaillir dans notre âme. La concupiscence de l'orgueil, bien sûr, mais aussi la concupiscence des yeux, la concupiscence qui nous pousse à tout posséder, tout avoir, et la concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté. Eh bien, les pères nous expliquent, pour lutter contre l'orgueil, il va falloir la concupiscence, il va falloir pratiquer ces vertus dont je viens de vous parler. Contre la concupiscence de la chair, c'est le jeûne. Contre la concupiscence des yeux, c'est l'aumône. Contre l'orgueil, c'est la prière. Donc la prière, le jeûne et l'aumône sont trois vertus essentielle pour lutter contre les conséquences du péché originel. Alors attention, répondons tout de suite à une objection qu'on nous fait extrêmement souvent. Quand j'explique ça aux adolescents, ils me le disent tout le temps. Même chez l'abbé, je croyais que le baptême avait effacé le péché originel. Donc pourquoi vous nous parlez de ce péché originel puisque nous ne l'avons plus ? Réponse, le péché originel est effacé, mais pas les conséquences. Nous avons quatre blessures. Nous avons une blessure dans notre intelligence, dans notre volonté, dans l'irascible et dans le concupiscible. Chacune de nos puissances est blessée. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc vous allez avoir la blessure de l'intelligence qui va être blessée par l'ignorance. La volonté va être blessée par la malice. L'irascible va être blessée par la faiblesse. Et le concupiscible, pardon, va être blessé par la concupiscence. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Donc non seulement il va falloir que je rattrape ces choses-là par des vertus spéciales qu'on appelle les quatre vertus cardinales, la prudence, la force, la justice, la tempérance, mais également par les vœux monastiques, l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc là, les choses qu'on verra plus tard. Pour ceux qui écoutent le cours sur Saint Thomas d'Aquin en parle à long, en large et en travers avec raison. Il explique bien, donc il faut rattraper le mauvais chemin que nous avons pris, justement par l'usage de ces quatre vertus cardinales. Donc la prudence contre l'ignorance, et la justice pour remettre dans le bon chemin la volonté. La force pour l'irascible et la prudence, justice, force, la tempérance contre la concupiscence de la chair. Et contre la concupiscence, tout simplement. Vous voyez, donc, il faut comprendre ce que veut dire. Ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. Vous voyez, une phrase toute simple, toute bête, quelques mots. Regardez les conséquences. Regardez l'interprétation des pères. Cela veut dire que nous devons nous convertir. Qu'est-ce que ça veut dire convertir ? Convertir, ça veut dire changer de direction. Convertere. Vertere, c'est tourner en latin. Convertir, c'est tourner vers quelque chose de nouveau. Je me tournais vers le monde, je dois me tourner maintenant vers notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais le regard figé sur les choses de la terre, la boue terrestre, je dois maintenant avoir mon regard fixé vers le ciel, vers les choses éternelles. J'avais mon cœur fixé, c'est ce que disent ici les pères, vers l'orgueil. Maintenant, il faut l'humilité. La désobéissance, maintenant, il faut l'obéissance. J'avais le désir des choses visibles. Maintenant, je dois avoir le désir des choses invisibles. C'est comme ça qu'on voit si on a fait une bonne confession. Si on a fait une bonne confession, on retombe pratiquement immédiatement dans les heures qui suivent dans les mêmes péchés. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, ça veut dire qu'on n'a pas assez de contrition. Ou plus exactement, qu'on a gardé une occasion prochaine et volontaire de péché mortel qui nous fait tomber toujours dans les mêmes péchés. Il y a ici, en troisième paragraphe de la page 14, donc un texte de Saint Jean Chrysostome dans ses homélies sur Saint Matthieu. Saint Jean Chrysostome est un grand, grand exégète, beaucoup travaillé sur l'Écriture sainte, avec des sermons remarquables pour l'explication des évangiles, notamment Saint Matthieu. Voilà ce qu'il dit. Il n'était pas possible que ceux qui avaient quitté Hérode pour venir trouver Jésus-Christ retournassent vers ce roi impie et cruel. Car en effet, qui abandonnent Jésus-Christ et qui passent au démon par le péché reviennent à Jésus-Christ par la pénitence. Est-ce qu'on peut revenir à notre Seigneur Jésus-Christ après l'avoir quitté sans la pénitence ? Réponse impossible. La pénitence est l'unique chemin qui mène à Dieu pour quelqu'un qui est tombé. Rappelez-vous ce que disent beaucoup de pères, il y a deux chemins pour aller au ciel. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. L'innocence, la pénitence. Si je n'ai jamais commis aucun péché, je peux prendre pour le ciel le chemin de l'innocence. Si j'ai commis des péchés, le chemin de l'innocence est définitivement fermé pour moi. Il faut que je prenne le chemin de la pénitence. Un bébé qui meurt après le baptême n'a jamais commis de péché. Il n'a plus de péché originel qui a été effacé par le baptême. Il peut prendre le chemin le plus court, raccourci pour le ciel, qu'on appelle le chemin du baptême, le chemin de l'innocence. Il va directement au ciel. Un bébé qui est baptisé, un adulte qui est baptisé, qui meurt juste après le baptême, il va directement au ciel, c'est comme un martyr. Toutes les fautes du passé sont effacées, et en plus toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés, c'est-à-dire toutes les peines du purgatoire. malheureusement, si j'ai commis un péché, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, si j'ai commis des péchés, bon, le bon Dieu est prêt à les pardonner, bien sûr, du moment que je regrette, que j'accuse ces péchés correctement confessionnel, ou que je reçois la grâce d'un acte de contrition parfaite. Mais à ce moment-là, même avec un acte de contrition parfaite, strictement parlant, la voie d'innocence est terminée. Le bon Dieu peut pardonner les péchés passés, il ne peut pas faire que les péchés passés n'aient pas existé. Bon Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Même des très grands saints comme sainte Marie-Madeleine ou saint Augustin, qui ont fait des vertes et des pas mieux dans leur jeunesse, bon, se sont convertis, sont devenus des grands saints, parce que le bon Dieu a pardonné leurs péchés passés. Mais le bon Dieu ne peut pas faire que les péchés passés de sainte Marie-Madeleine et les péchés passés de saint Augustin n'aient plus existé. Ils existent toujours, ils sont effacés, mais le bon Dieu les pardonne. Et quand le bon Dieu les pardonne, il les oublie. Mais même s'il les oublie, les péchés ont toujours existé il y a un certain temps. C'est comme, je prends un exemple tout simple, en histoire, imaginez la vie de Napoléon. Vous ne pouvez pas faire que Napoléon n'ait pas existé. Il a existé, c'est tout, ça vous plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Celui qui a vécu donc jusqu'alors dans l'innocence, dit saint Jean Chrysostome, ignore le mal et se laisse facilement tromper. Mais lorsqu'il a connu par expérience le mal dans lequel il est tombé, qu'il se rappelle le bien qu'il a perdu, il revient à Dieu, le repentir dans le cœur. Or, l'homme qui abandonne le démon pour venir à Jésus-Christ revient difficilement au démon parce que la joie qu'il goûte au milieu des biens qu'il a retrouvés et le souvenir des maux auxquels il a échappé lui rend difficile le retour vers le mal. Bon, ça c'est ce que dit saint Jean Chrysostome. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Permettez-moi de vous le dire. Souvent, lorsque l'homme a donné sa vie au démon, ou son cœur au démon, son âme au démon, il va avoir parfois bien des difficultés à revenir parce que, évidemment, le démon donne beaucoup de choses matérielles. Hein, il donne la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est les trois dons du démon. Le démon donne à tous ceux qui veulent le suivre les trois cadeaux: liberté, égalité, fraternité. C'est le raccourci pour l'enfer. Vous voulez aller en enfer très vite? Suivez les trois principes révolutionnaires de liberté, égalité, fraternité, les trois principes qui guident la République dite française depuis le début, depuis la révolution de 1789. Liberté, égalité, fraternité. Voilà ce qui nous coule, voilà ce qui a coulé complètement des millions de personnes avant nous. En 1776, aux États-Unis, c'est la même chose. Révolution américaine, liberté, égalité, fraternité. Révolution 1968, avec le fameux esprit de 68, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. J'ai le droit de faire ce que je veux, plus personne ne peut me dire ce que j'ai à faire. Je fais ce que je veux, je n'ai pas à obéir. Alors, voyons maintenant le sens tropologique. Je vous rappelle que le sens tropologique, c'est le sens moral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, ils reçoivent en songe, un ange donc leur intervient dans leur vie pour leur avertir de ne pas retourner auprès d'Hérode. Hérode représente, disent les pères, le démon, le monde et la chair. Et le chemin qui mène à lui est celui des plaisirs et de l'envie. C'est donc ceux donc qui passent du démon au Christ marchent sur le chemin de croix et de la mortification pour retourner dans leur propre pays, qu'est le paradis céleste. Donc il y a deux pays et deux chemins. Premier pays, c'est le monde d'ici-bas. Le chemin qui mène liberté, égalité, fraternité. Deuxième pays, la cité céleste, le paradis, chemin qui mène pauvreté, chasteté, obéissance. On voit très bien qu'il y a un choix à faire. Deux amours ont fait deux cités, nous dit saint Augustin. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste, donc il y a un choix à faire. Donc là, ici, il y a quelques points qui viennent des pères de l'Église. Celui qui vient du démon vers Dieu ne doit plus jamais marcher sur la route par laquelle il alla au démon. Donc il faut connaître nos faiblesses, c'est là où l'importance de connaître son défaut particulier, c'est-à-dire la faille dans la cuirasse qui est autour de mon âme. Le bon Dieu me donne une cuirasse pour me protéger, mais il y a souvent une faille dans la cuirasse, donc il faut la connaître. En fonction de notre tempérament, en fonction de nos faiblesses personnelles, bien connaître le point d'entrée en général du démon. En gros, il y a trois points d'entrée, ou la chair, ou les yeux, ou l'orgueil. Lequel de ces trois points utilise souvent le démon pour entrer dans mon âme? Donc il faut connaître les points d'entrée du démon pour bien fermer ces portes-là. Si je sais que le démon rentre toujours par telle petite fenêtre que j'ai tendance à laisser ouvrir derrière ma maison, bien, il faut bien fermer cette fenêtre, la cadenasser, pour être sûr que le démon ne puisse plus rentrer. Donc celui qui vient du démon vers Dieu ne doit plus jamais marcher sur la route par laquelle il est là au démon. Donc il faut avoir l'humilité, disent les pères, de regarder d'où je viens. Et en fonction des difficultés qui étaient les miennes auparavant, de changer dans la vie de tous les jours ce qu'il faut changer pour être sûr que je ne retombe pas. Si vous étiez venu par le chemin de la fornication, revenez par le chemin de la chasteté. Le chemin de la chasteté, il passe 99 fois sur 100 pour les adultes au moins par le jeûne. C'est le jeûne, je vous l'ai expliqué, le jeûne est toujours conseillé par les pères de l'Église pour lutter contre les tentations d'impureté. Très souvent, le jeûne, pas simplement de nourriture, mais aussi, très important, le jeûne d'alcool, aide à lutter contre la pureté. Les gens qui sont habitués à faire des fêtes, à être toujours dans les délices de la table, la bonne nourriture, la nourriture trop riche, la nourriture trop chère, trop mondaine, qui sont toujours en train de rechercher les plats qui leur plaisent, qui sont habitués à boire trop, eh bien, auront la plupart du temps de gros problèmes contre la pureté. Donc, pour lutter contre les effets, il faut lutter contre les causes. Puisque les causes d'impureté, ces tentations d'impureté sont marquées par justement, les causes sont justement, c'est le fait que je mange trop, que je bois trop, donc mortifions par le jeûne. Deuxième point, disent les pères, si vous étiez venu par le chemin de l'avarice, marchez pour le reste de votre vie sur le chemin de l'aumône. Mais deuxième chose, chasteté contre le jeûne, pardon, pour pratiquer la chasteté contre les péchés de la chair. L'aumône, cette fois-ci, contre la concupiscence des yeux. Le chemin de l'avarice, c'est quoi? Le chemin de l'avarice, c'est la concupiscence des yeux. Troisième point, si vous retournez par le chemin d'origine, vous allez revenir sur le pouvoir d'Hérode et vous deviendrez un traître au Christ. Et rappelez-vous l'avertissement de notre Seigneur. Il dit que lorsque j'ai mis le démon impur surtout, il parle du démon impur, hors de mon âme, il va revenir, il va d'abord aller dans des lieux déserts, il ne va rien trouver, il ne va pas trouver d'endroit pour se reposer. Donc il revient dans l'âme qu'il vient de quitter. Il revient dans cette âme, et il essaie de revenir dans cette âme, et qu'est-ce qu'il trouve? La porte barricadée, les fenêtres sont fermées, il ne peut plus rentrer. Et il trouve que cette âme a entièrement été changée en bien. Elle sent bon maintenant, alors qu'avant elle avait l'odeur pestilentielle du péché, maintenant elle sent bon. Et le propriétaire de cette âme fait très attention de ne plus réaccepter le démon. Qu'est-ce que fait le démon? Est-ce que vous croyez que le démon va se dire, bon ben tant pis, c'est trop tard, j'ai perdu, tant pis, je vais aller voir quelqu'un d'autre? Non, il part chercher sept démons pires que lui, dit notre Seigneur. Et s'il peut revenir dans cette âme, l'état de cette âme est pire qu'au début. Donc attention à ces trois choses très importantes. Le jeûne contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux, la prière contre la concupiscence de l'orgueil. On continue en page 14, je vous explique tous ces textes extrêmement riches des pères de l'Église. Il y a certaines parties de l'Évangile, vous verrez par vous-même, qui ont été beaucoup travaillées par les pères. Certaines parties ont été plus travaillées que d'autres. Une chose est certaine, disent les pères, tous sont appelés. Nous en avons ici la preuve. Donc on voit très bien quelles sont les différentes personnes qui arrivent à la crèche. Et dans quel ordre ils arrivent? Les premiers qui sont appelés, les chœurs angéliques. Les anges du ciel qui viennent chanter Gloria à la naissance de notre Seigneur. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Puis les bergers. Puis les rois mages. Donc tous sont appelés. Après les bergers, après les pauvres et les ignorants, voici les riches et les savants. Ceci toutefois, après les pauvres, dit saint Augustin. Afin qu'aucun grand ne s'enorgueillit et qu'aucun petit ne perde confiance. Le bon Dieu accepte tout le monde, à condition qu'on ait suffisamment d'humilité. Et un père de l'Église, je ne sais plus lequel, qui dit que la porte d'entrée pour rentrer dans l'étable est petite et basse. Et que pour pouvoir rentrer dans l'étable et contempler notre Seigneur Jésus-Christ, il faut baisser l'échine. Et celui qui ne veut pas baisser l'échine ne peut pas rentrer. Rappelez-vous ce qu'avait dit l'évêque, le grand évêque Saint-Denis, donc qui avait Saint-Rémy, pardon, qui avait baptisé Clovis en 496, la nuit de Noël de 496 pour le baptême de la France, il avait dit à Clovis, courbe la tête, fier sycambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Et donc nous aussi, il faut avoir le courage de baisser l'échine et de pratiquer la vertu d'humilité pour entrer devant notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne seriez qu'un berger, dit Saint Jean Chrysostome. Si vous vous empressez d'aller à cette étape, vous y trouverez l'enfant. Mais si vous n'y venez pas, quand même vous seriez un roi, votre pourpre ne pourra vous sauver. Et voyez que l'assurance possède leur foi, dit Saint Bernard. Ils ne demandent pas s'il est né, mais où il est né. Ils sont donc les modèles de la foi parfaite. On avait déjà vu ça juste avant. Rappelez-vous le texte, premier paragraphe. Un des caractères de la vraie foi, c'est de ne pas rechercher les raisons des autres qui nous sont données, mais d'y acquiescer avec docilité. Donc, ils ne demandent pas si notre Seigneur Jésus-Christ, mais où il est. Ils savent que l'étoile représente quelque chose de mystérieux, quelque chose de grand, quelque chose de divin. Et tout de suite, ils viennent pour s'agenouiller aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont donc les modèles de la foi parfaite. Donc on voit bien, encore une fois, j'en avais déjà parlé, j'en y reviens pas, que notre Seigneur Jésus-Christ vient pour tout le monde. Hein. Donc arrêtez de tomber dans le panneau, de dire que s'il faut l'église des pauvres, l'église des pauvres, l'église des pauvres, il faut l'église pour tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans notre peut rentrer dans l'église catholique à condition, évidemment, de vouloir vivre en état de grâce. On voit très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup les pauvres. Il va passer énormément de temps avec eux. Pourtant, ses meilleurs amis étaient des gens très riches. Vraisemblablement, après les apôtres, bien sûr, les meilleurs amis de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la famille de Saint-Lazare. Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Sainte-Marie étaient des amis de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ aimait aller à Béthanie pour se reposer de ses fatigues apostoliques. Justement, c'est Saint-Lazare, Sainte-Marthe et Sainte-Marie-Madeleine. Imaginez un petit peu ce que ça devait être. Pouvoir recevoir chez soi comme ami notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut faire par le baptême, et c'est ce qu'il veut faire après chaque bonne confession, chaque bonne communion. Venez, venir dans mon âme. Il va frapper à la porte, est-ce que je peux venir chez vous? Est-ce que je peux m'inviter ce soir? Si je n'ai pas de réponse, écoutez, ce soir je suis un peu pris, alors venez un autre jour s'il vous plaît. Non, notre Seigneur Jésus-Christ propose immédiatement, on saute sur l'occasion et on accepte. Alors, les pères de l'Église font remarquer une autre chose importante, c'est que les différentes personnes qui vont être appelées à la crèche ne vont pas être appelées par les mêmes moyens. Donc, un ange apparaît au berger, mais une étoile apparaît au mage. Donc, l'ange amène les bergers à la crèche, l'étoile amène les mages à la crèche. Pourquoi un ange ? Un ange est un esprit, un pur esprit. Pourquoi ? Parce que les bergers sont des juifs. Ils ont été éclairés par les prophètes, donc ils savaient se servir de leur raison, ils savaient que le Messie allait arriver, que ce Messie était Dieu. Et donc, un ange va parler directement à leur intelligence. Venez, sachez que le Sauveur du monde est né, vous le reconnaîtrez à ce signe, vous verrez un enfant enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Et ils partent. Au contraire, les mages, eux, sont des païens. Ils n'ont pas eu les prophètes. Ils n'ont pas eu toute cette éducation surnaturelle qu'ont reçue les juifs. Et donc, eux, ils ne peuvent pas parler directement à des êtres surnaturels comme les anges. Parce qu'ils seraient sans doute effarouchés par les anges. Alors que les juifs savaient tous que les anges existaient. Les mages, eux, ne le savaient pas. Et donc, leur niveau, si vous voulez, de connaissance étant tout à fait inférieur, donc le bon Dieu va utiliser avec les rois mages des créatures matérielles, une étoile. Et voilà ce que disent les pères. Un ange apparaît au berger, une étoile au mage, dit Saint Grégoire. Car les juifs éclairés par les prophètes se servaient déjà de leur raison, mais les gentils avaient besoin d'avoir leur raison formée par des signes. Hérode, dit Saint Léon, par ses vices représentait aussi le démon. Et le démon avait raison de trembler, car ce royaume allait être détruit. Il est grand, ce roi qui est servi par les astres du ciel. Donc ce roi des rois est servi à la fois par les anges, et à la fois par les êtres matériels. Et c'est les pères de l'Église, on verra ça plus tard, mais qui font remarquer que les êtres matériels obéissent à la loi du bon Dieu. Il n'y a que les êtres qui sont des êtres surnaturels, des êtres qui ont une âme comme nous, donc avec une grâce surnaturelle, des êtres avec une âme, une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, nous sommes les seuls qui nous révoltons contre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les choses matérielles ne se révoltent pas. Un oiseau ne se révolte jamais contre la loi divine. À un moment précis, son instinct va lui dire qu'il faut construire un nid. On construit un nid, on ne pose pas de questions. Il faut construire un nid de telle et telle façon. On oublie, on ne pose pas de questions. On construit son nid de telle et telle façon. Alors, si les animaux sans raison obéissent à la loi divine, comment se fait-il que les seules personnes qui n'obéissent pas à la loi divine soient justement les personnes qui sont sommées de la hiérarchie ? Ici-bas sur la terre, à savoir les hommes. Alors, avançons donc dans ces explications des pères, en bas de la page 14, sur le polycopier. C'est une chose remarquable, disent les pères, que la première recherche publique qui est faite du Christ proclame sa qualité de roi. Il est cherché comme tel par des rois et des sages. Et en effet, quiconque le cherchera comme roi sera lui-même sage et roi. Et à la fin de sa vie, le juge romain lui posera la même question : êtes-vous roi ? Et Jésus affirme sa royauté. Et quand il meurt, cette royauté est affirmée par l'écriteau posé en haut de la croix qui lui sert de trône : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ainsi, il est proclamé roi avant sa naissance et aussitôt après sa naissance, afin que l'on sache qu'il possède sa royauté par le fait de sa naissance. Et il est proclamé roi quand il meurt, afin que l'on sache que la mort ne l'empêchera pas d'exercer sa royauté et qu'il est roi même par sa mort. Voilà pourquoi les rois mages ont apporté leur l'encens à la myrrhe. Ils reconnaissent en cet enfant couché sur la paille de la crèche et enveloppé de l'ange, ils vont reconnaître en lui un dieu, un homme et un roi. Alors quel est le don que le monde moderne, surtout en France, je crois que c'est encore plus net, quel est le don que les gens modernes en France refusent de donner à notre Seigneur Jésus-Christ ? Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'encens, ni la myrrhe, c'est l'or. S'il y a une caractéristique, si vous voulez, de l'esprit révolutionnaire français, c'est le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça se traduit par un mot, qui est un mot sacré dans le langage républicain, le laïcisme. La France est une république laïque. Souvent, les gens me disent, vous savez pourquoi est-ce que vous êtes tellement opposé à la République ? Je ne suis pas opposé à la République en tant que telle. Je dis souvent que un de mes héros politiques était un président de la République, Garcia Moreno, président de l'Équateur, assassiné par les francs-maçons en 1875. Donc ce n'est pas contre la République que j'en ai. J'en ai beaucoup contre la République française parce qu'elle est laïque. C'est-à-dire une République qui est opposée au Christ et à son règne social. En gros, le gouvernement français dit à tous les Français, Dieu ne connaît pas. Vous pouvez le garder dans votre maison à condition qu'il soit bien caché, que vous fermez bien les volets pour que personne ne sache qu'il est chez vous. Dans votre cœur, vous pouvez le garder si vous voulez, ça ne me gêne pas. Mais dès que vous franchissez la barrière de la maison, vous passez à l'extérieur, c'est fini, terminé. Notre Seigneur Jésus-Christ est interdit de séjour en France. C'est exactement ça, c'est ça la révolution. Jésus est interdit de séjour dans notre pays. Alors, si notre Seigneur Jésus-Christ est interdit de séjour, il y a quelqu'un qui prend la place. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre la place, c'est le démon lui-même. Donc, ayons le courage de faire un petit peu notre examen de conscience sur ce sujet. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment reconnu par chacun d'entre nous comme maître réel de ma vie de tous les jours, pas simplement sur le papier, mais dans les faits, chaque jour de ma vie. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment celui qui règle toute ma vie ? N'oublions pas la doctrine de l'Église, j'y reviens pas, parce que j'en ai déjà parlé très souvent, mais rappelez-vous la doctrine de l'Église sur le sujet. Hein ? Notre Seigneur Jésus-Christ est roi par sa puissance, sa présence et son essence. Par sa puissance parce qu'il peut tout, par sa présence parce qu'il est partout, et par son essence parce qu'il est cause de tout. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu par moi et dans ma famille comme roi, Précisément parce qu'il peut tout, parce qu'il est cause de tout, et parce qu'il est présent partout. Ou est-ce qu'au contraire, je tombe dans le piège du monde moderne en France, surtout, à savoir de rejeter notre Seigneur Jésus-Christ et de tomber dans le laïcisme. Je vais souvent donner ça comme exemple, je m'excuse de me répéter, mais ça me vient à l'esprit, donc je répète, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu tous les sermons, c'est une chose qui m'avait plus impressionné chez les Incas, pas chez les Incas, chez les Aztèques, excusez-moi, quand j'étais au Mexique, il y avait des restes des Aztèques, une fausse religion épouvantable, qui adorait le soleil. Mais les Aztèques adoraient le soleil, mais ils avaient au moins le bon sens, puisqu'ils considéraient le soleil comme Dieu. Ils faisaient très attention à ne pas enfoncer leur Dieu pendant la journée, parce que le soleil était brillé dans le ciel, et donc les voyaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient soigneusement que le soleil soit couché, puis une fois que le soleil était couché, ils disaient, bon, maintenant, le Dieu fait sa sieste, le Dieu n'est pas là, il dort, alors on peut faire toutes les bêtises, il ne voit pas. Vous voyez? Donc, attention à ça. Donc, essayons de bien faire notre examen de conscience. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu comme roi réellement dans ma famille, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de penser, dans ma façon de me comporter avec mon épouse, avec mon époux, dans l'éducation que je donne à mes enfants, dans mon activité professionnelle. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment mon roi? Je ne vous demande pas, dans les activités professionnelles, d'aller prêcher notre Seigneur Jésus-Christ avec des grands discours devant votre patron. Bien sûr, ce n'est pas ce que je vous demande. Il faut y renvoyer immédiatement. Ce n'est pas ça. Mais il faut que les gens autour de vous, qui sont pratiquement tous des païens, puissent dire, ce gars-là, il est honnête. Ce gars-là, il est pas comme nous. Il ne ment pas. Ce gars-là, il est sérieux dans son travail. Et même quand le patron, le superviseur n'est pas sur son dos, il fait son travail correctement. Et petit à petit, comprendront, oui, ce gars-là, évidemment, il est chrétien. C'est un vrai chrétien. C'est un exemple que je vous donne, un peu personnel, mais comme les gens qui nous voient en soutane, dans la rue, un prêtre en soutane, et qui vous disent, « Ah, vous êtes prêtre, vous ?»« Ben oui, je crois que ça se voit, non ?»« Ah, mais vous êtes un vrai prêtre ?»« Eh oui, je suis un vrai prêtre. » Vous entendez eux? Sous-entendu, les autres, ceux qui se promènent en complet veston ou en rien du tout, ben ils ne sont pas prêtres. Ils ne sont pas des vrais prêtres, c'est ce qu'ils veulent dire. Alors, un examen de conscience est à faire. Profitez, mes bien chers frères, de l'approche de la fête de Pâques. Hein. Nous sommes maintenant, nous allons arriver dans le temps de la Passion, des dimanches prochains. Donc, le temps de la Passion, c'est un temps d'examen. Un temps d'examen de conscience sérieux pour faire une bonne confession générale, peut-être avant la fête de Pâques. Ceux qui m'écoutent et qui ont besoin d'un bon examen de conscience, qui ne savent pas très bien comment où trouver un examen de conscience très, 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 très complet, n'hésitez pas à me contacter ou par téléphone ou sur mon adresse email, jlf.lafitte@gmail.com ou 06 32 01 65 16 et demandez-moi que je vous envoie un examen de conscience que j'utilise pour les retraites, qui est très complet et qui aide beaucoup les gens à faire un bon examen de conscience pour la fête de Pâques. Dernier paragraphe de la page 14 en avance. Dieu avait amené les rois mages à la foi d'abord par l'étoile, entré à Jérusalem et les instruit par les prophètes. Et à la fin, elle est instruite par son ange. Comment ? Dieu avait amené les rois mages à la fois d'abord par l'étoile. C'est l'étoile qui a amené les rois mages depuis l'Arabie jusqu'à Jérusalem. Ensuite, il les instruit par les prophètes. Rappelez-vous le texte des prophètes. Et toi ? Donc Hérode, apprenant l'arrivée des rois mages, panique complètement et demande à ses scribes, à ses princes, des prêtres, « C'est quoi cette histoire du grand roi ?» Et ils vont répondre en citant le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui régira Israël, mon peuple. » C'est dans ce même évangile de Saint Matthieu, chapitre 2, verset 6. Donc, par les prophètes, il a instruit les rois mages, et ensuite il les instruit par son ange. Pourquoi ? Parce que c'est un ange. Quand le texte dit, en haut de la page 14, ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. Ce songe, les pères de l'Église disent tous que c'est un ange qui leur est apparu en sommeil pour leur dire de ne pas retourner vers Hérode parce qu'Hérode voulait tuer l'enfant. Donc, vous voyez, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ utilise des instruments, si vous voulez. Au début, il va utiliser un instrument matériel, comme une étoile. Puis, lorsque les personnes se rapprochent du bon Dieu, ils sont capables de comprendre certaines choses de façon plus facile, plus complète. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser les prophètes et ensuite directement les anges, une fois qu'on a connu notre Seigneur Jésus-Christ. En mourant pour le Christ, avant même de le connaître, page 15, avant de pouvoir parler, ses enfants, les saints innocents, là, Saint Matthieu, les pères parlent du massacre qui va arriver, donc, les saints innocents des saints Augustins ont confessé le Christ par leur sang, avant de pouvoir le confesser de bouche. Et de cette sorte, ils ont été les prémices des martyrs. Étant riche, dit l'apôtre, Jésus s'est fait pauvre, afin de vous enrichir de sa pauvreté. Ma richesse sera donc cette pauvreté, et ma force sera la faiblesse de mon Dieu. Il a voulu subir lui-même la privation afin d'abonder pour les autres. Les larmes de cet enfant qui pleure coulent sur moi, lavent mes péchés. Je dois plus au Jésus, aux souffrances que vous avez subies et par lesquelles vous m'avez racheté, qu'aux actes par lesquels vous m'avez créé. Que me servirait de naître si ma rédemption ne venait s'ajouter à ma naissance ? Donc, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de suivre notre Seigneur Jésus-Christ à la crèche de Bethléem. Il faut avoir le courage de le suivre aussi à la fin de sa vie publique, à la crucifixion, lorsqu'il porte sa croix, qu'il monte au calvaire, qu'il est crucifié. Et encore une fois, il ne faut pas séparer les choses. Attention. L'incarnation, c'est très beau, mais elle mène à la rédemption. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ naît dans le froid de la nuit de Noël? Il naît pour mourir. Et pourquoi meurt-il? Il meurt en réparation de nos péchés. Donc pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient-il à Bethléem? Pour réparer nos péchés. Comment répare-t-il nos péchés? Par la mort. Sa mort sur la croix. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus beau que de donner sa propre vie pour rattraper nos péchés, nous qui sommes coupables? Ben non. Le bon Dieu a fait une chose extraordinaire. On a peut-être du mal à comprendre, mais quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ, on a peut-être du mal à comprendre, quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ enveloppé de l'ange, que cet enfant est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et quand je vois ce même enfant qui est devenu adulte mourir sur la croix après les tortures de la passion, et dire « Seigneur, Seigneur, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À ce moment-là, en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix, puis qui ouvre une fois mort son cœur pour que je puisse trouver refuge dans son sacré cœur, alors je comprends davantage l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour moi. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour moi l'incarnation est en quelque sorte caché. Il n'est pas évident de voir d'ailleurs cet enfant enveloppé de l'ange, encore une fois, qu'il est Dieu, roi et homme. On voit qu'il est homme. On ne voit pas qu'il est roi. On ne voit pas qu'il est Dieu. Par contre, quand notre Seigneur Jésus-Christ meurt, écartelé sur la croix, alors là, on comprend à quel point il nous aime. Donc, reprenez méditez cette phrase magnifique des pères. Que me servirait de naître si ma rédemption ne venait s'ajouter à ma naissance? Rappelez-vous la phrase terrible de notre Seigneur Jésus-Christ à propos de Judas. Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Notre Seigneur Jésus-Christ va en parler. On verra ça plus tard. Il va dire expressément que la voie est large qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui prennent cette voie large et que peu prennent la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Donc que me servirait de naître si ma rédemption ne venait s'agiter à ma naissance? Est-ce que je suis sur le chemin de la rédemption? Évidemment, il vaut beaucoup mieux aller au ciel qu'aller en enfer. Mais pour justement être sûr qu'on va au ciel, le bon Dieu a mis l'enfer. On dit que l'enfer est une création de la miséricorde de Dieu. Création de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que des tas de gens, en méditant sur l'enfer, comprennent la gravité du péché, se convertissent. C'est l'enfer est le grand moyen d'aller au ciel. En méditant sur l'enfer, on peut aller au ciel. Et peut-être que s'il n'y avait pas d'enfer, eh bien, beaucoup de gens ne vivraient pas en état de grâce. Bien sûr, c'est mieux de vivre en état de grâce par pur amour du bon Dieu. Mais si je ne suis pas capable de suivre notre Seigneur Jésus-Christ par pur amour, il vaut mieux le suivre par crainte plutôt que de ne pas le suivre du tout. Nous avançons donc toujours dans le chapitre 2 de Saint Matthieu. Donc à la page 15, nous allons maintenant commencer les versets 13, 14, 15. Lorsque les mages furent partis, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, encore un ange, disant, « Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, et fuyez en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je vous parle. Car il arrive qu'Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère durant la nuit et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes, « J'ai rappelé mon fils d'Égypte. » Encore une fois, un ange, encore une fois, les prophètes qui nous guident dans ce commentaire de l'Écriture sainte. On voit là l'extraordinaire obéissance de Saint Joseph et de la Sainte Famille. Joseph ne pose pas de questions. Il venait de recevoir l'or, l'encens et la myrrhe, donc ils avaient peut-être un petit peu de moyens matériels maintenant pour se vivre un peu plus facilement. Il pouvait se dire, bon, maintenant, on va commencer l'éducation de cet enfant, on pourra retourner tranquillement à Nazareth. Non, il faut partir. Et où? En Égypte. Un pays de païens. Un pays de gens qui adoraient les crocodiles, qui adoraient les chats, qui adoraient les singes, qui adoraient le soleil, qui adoraient les choses matérielles. Un pays de païens. Et puis tout seul. Personne pour vous aider. Alors, il faut méditer là-dessus. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet. Le Seigneur, dont la colère ne dure pas éternellement, donc on est en page 15, juste sous le chapitre 2, verset 15. Le Seigneur, dont la colère ne dure pas éternellement, s'est souvenu de tous les maux dont il avait autrefois accablé l'Égypte, et lui envoie son Fils pour lui donner un signe éclatant de réconciliation. Ça, c'est un grand mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu envoie son propre Fils chez des païens complets. Et l'Égypte est un pays musulman, un pays qui déteste notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un des pays qui persécute l'Église catholique, c'est bien l'Égypte, c'est presque aussi mauvais que l'Arabie Saoudite. Hein. La religion copte, il y a des coptes qui sont hétérodoxe, mais je crois qu'il y a aussi des copes, je connais mal les religions orientales, mais les groupes orientaux, mais il y a certains coptes qui sont catholiques. Eh bien, le bon Dieu va envoyer chez ces païens, justement, en Égypte, justement, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si l'Arabie persécute les catholiques, permettez-moi de vous dire que l'Égypte aussi, les frères musulmans ont toujours persécuté les églises catholiques, des églises brûlées en Égypte, il y en a énormément, régulièrement, les coptes passent à la casserole, et physiquement parlant, hein, dans des massacres épouvantables, justement parce qu'ils suivent notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une chrétienté qui a été fondée par un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Marc. C'est Saint Marc, dit la tradition, qui a fondé la chrétienté en Égypte, Alexandrie, le Caire. Donc notre Seigneur veut ainsi guérir par cet unique et puissant remède les 10 plaies anciennes de l'Égypte. Il veut aussi que le peuple qui a été autrefois le persécuteur de son peuple premier-né devienne le gardien de son fils unique. Des païens qui vont garder notre Seigneur. Que ceux qui ont fait peser sur ce peuple leur domination tyrannique soient les serviteurs les plus empressés de son fils et qu'au lieu d'aller s'engloutir dans les flots de la mer Rouge, ils soient appelés à se plonger dans les eaux vivifiantes du baptême. On voit bien là le sens allégorique de la traversée de la mer Rouge. Traverser de la mer Rouge, c'est le baptême. Les Juifs qui, avant de quitter l'Égypte, se tiennent debout en mangeant des laitues amères, le bâton à la main, en train de manger l'agneau pascal, et qui, avec le sang de l'agneau pascal, vont badigeonner le pourtour des portes de la maison des chrétiens, enfin des juifs, pardon, eh bien, c'est le symbole, évidemment, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Eucharistie. Notre âme est comme une maison, et notre âme doit être protégée par ce sang de l'Eucharistie, et donc notre ange gardien doit badigeonner les portes de notre âme avec le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'ange exterminateur va venir pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte, à chaque fois qu'il voyait ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang qui représentait notre Seigneur Jésus-Christ chez les Égyptiens, et donc quand il voyait ce sang sur les portes, il savait que là il y avait une maison des Hébreux, et donc il n'y rentrait pas. Donc, c'est un peu cette phrase, vous voyez, il veut aussi que le peuple qui a été autrefois le persécuteur de son peuple premier-né devienne le gardien de son fils unique. Il y a aussi un sens anthropologique là. C'est-à-dire, j'ai été autrefois le persécuteur de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que j'ai commis un péché mortel dans le passé, j'ai persécuté notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut maintenant que je devienne le gardien de son fils unique. Et donc, plus mon passé a été pécaminé, plus dans mon passé je me suis éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ, plus il faut que je suive notre Seigneur Jésus-Christ maintenant, justement par un changement de vie. Et les Juifs, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont quitter l'Égypte pour passer en terre promise. Bon, malheureusement, comme ils n'ont pas voulu obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui se révoltait constamment en tombant dans des péchés d'idolâtrie surtout, eh bien le bon Dieu va les punir. Et va les faire attendre pendant 40 ans. Et sur les centaines de milliers de Juifs qui ont quitté la terre promise, seuls deux de ceux qui ont quitté la terre promise, deux vont arriver en Égypte. En terre promise, pardon. Josué et Caleb, c'est tout. Même Moïse, le grand patriarche Moïse, ne verra pas la terre promise. Il la verra de loin, mais il n'y rentrera pas. Saint Augustin maintenant. Paragraphe suivant, prêtez l'oreille à ce grand mystère. Moïse avait autrefois répandu une profonde nuit sur l'Égypte perfide. Le Christ, en arrivant dans cette contrée, rend la lumière à ceux qui étaient assis dans les ténèbres. C'est que les ténèbres avaient envahi l'Égypte à la suite des ce qu'on appelle des dix châtiments que Dieu a envoyés sur l'Égypte pour ouvrir le cœur de Pharaon, sans succès d'ailleurs. Il n'a pas ouvert le cœur de Pharaon, qui refusait de reconnaître le vrai Dieu. Et donc, ils sont tombés dans les ténèbres les plus complets. Ce n'est pas simplement des ténèbres physiques, l'obscurité, le manque de lumière, mais c'est aussi des ténèbres spirituelles. Hein? Le Christ, en arrivant dans cette contrée, donc rend la lumière à ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Hein? Il fuit, mais pour éclairer et non pas pour se dérober à ses ennemis. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le sel de la terre, il est la lumière du monde. La lumière pour révéler aux gentils le grand mystère de l'incarnation. Isaïe avait prédit cette fuite du Seigneur en Égypte. En ces termes, voici que le Seigneur est porté sur un nuage léger, il entrera en Égypte et il renversera les idoles de l'Égypte. Ça, c'est une prophétie qui vient du prophète Isaïe. Donc, encore une fois, il faut méditer sur cette nuit qui représente la nuit du péché, qui est illuminée par l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de la lumière. Saint Rémy, Joseph, donc il va donner le sens mystique des différents termes. Joseph représente les prédicateurs de l'Évangile. Marie, la Sainte Écriture. L'enfant, la connaissance du Sauveur. La persécution d'Hérode, celle qu'on lui a souffert à la primitive Église. La fuite de Joseph en Égypte, le passage des apôtres chez les nations infidèles, parce que l'Égypte signifie les ténèbres. Le temps qu'il resta en Égypte, celui qui se sépare l'ascension de la venue d'Antéchrist et la mort d'Hérode, l'extinction de l'envie qui existait dans le cœur des Juifs. D'accord ? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui fuit en quelque sorte l'Égypte, le peuple hébreu qui fuit l'Égypte plus exactement, représente, c'est l'enseignement des Pères, donc les âmes qui suivent qui quittent le paganisme. Donc les Juifs étaient trop tentés par le paganisme. N'oublions pas que le péché mignon des Juifs de l'Ancien Testament surtout, c'était l'adoration des faux dieux. On va voir ça, on verra ça très bien dans l'histoire de Moïse et d'Aaron, donc le frère de Moïse, qui va, dès qu'Aaron, Moïse a tourné le dos pour aller au sommet de la montagne pour recevoir les 10 commandements de la loi, il va partir pendant 40 jours, et bien, à ce moment-là, Aaron, son frère, ne voyant pas revenir Moïse, va prendre l'or des Juifs et en faire un veau d'or. Ils vont adorer un veau d'or. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à son peuple qui était tenté par l'idolâtrie de quitter l'Égypte aussi pour ça, parce que les Égyptiens adoraient les faux dieux. C'est ce que explique ici le paragraphe suivant. L'Égypte était remplie d'idoles et de superstitions. Ils adoraient les chiens, les crocodiles, les chats, les veaux, les béliers, les chèvres. Le Christ entra en Égypte pour la nettoyer de ses saletés et la consacrer au vrai Dieu. Le Sauveur vient en Égypte pour qu'une nation donnée aux anciennes erreurs puisse maintenant joindre le salut tout proche, recevoir ses grâces cachées, afin que celle qui n'avait pas encore rejeté les superstitions de son esprit puisse recevoir la vérité comme son invité. Donc on voit très bien que, vous savez, les choses n'ont pas beaucoup changé. Hein. Les Égyptiens adoraient les chiens, les crocodiles, les chats, les veaux, les béliers, les chèvres, et nous, qu'est-ce qu'on adore ? Vous croyez que c'est mieux en France ? On adore les ordinateurs, on adore l'argent, on adore la chair. On n'est pas plus malin qu'eux. Et nous, on a beaucoup moins d'excuses parce qu'on arrive après notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les Hébreux, dans l'Ancien Testament, devaient croire au Messie qui allait venir. Il n'est pas encore venu. Maintenant, il est venu. Alors, posons-nous la question, est-ce que j'adore des faux dieux ? Est-ce que dans la pratique, il y a des choses que je fais passer dans ma vie de tous les jours avant le bon Dieu ? Oui, il faut encore une fois adapter ces textes magnifiques de l'Écriture sainte à ma vie de tous les jours. Donc ici, il y a quelques notes de Saint Jérôme. En vérité, selon Saint Jérôme, les idoles d'Égypte tombèrent à terre dès l'arrivée du Christ. C'est ce que disent certains pères, qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé en Égypte, avec la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, toutes les idoles des Égyptiens, ce passage de notre Seigneur enfant, sont tombés à la renverse. Donc, après son départ, le 6 janvier, le Christ fut conduit à Jérusalem. D'abord, présenté au temple de février, puis rentra à Nazareth et de là s'enfuit en Égypte. Donc, certains pères pensent que l'ange qui est apparu pour dire à la Sainte Famille de quitter, partir en Égypte pour se protéger d'Hérode qui voulait chercher l'enfant pour le tuer, et bien que c'était en fait à Nazareth. Enfin, le sens anthropologique, en bas de la page 15, je voudrais terminer ce passage-là. Le Christ s'enfuit en Égypte pour que nous apprenions de lui à mépriser l'exil comme pèlerin et exilé sur cette terre et que nous désirions ardemment le ciel comme notre vrai pays. Nous sommes des viateurs. Qu'est-ce que ça veut dire un viateur ? Un viateur, c'est quelqu'un qui est sur la via. La via, c'est le chemin. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas des gens qui restons sur place, dans nos propriétés privées. Non, nous sommes des chemineurs. Nous sommes des personnes, des pèlerins en pèlerinage pour partir de cette terre, quitter cette terre et monter au ciel. Notre pays étant le ciel, disent les pères, nous pouvons dire que chaque pays est le nôtre, car le monde est notre pays. Donc je dois me considérer comme un exil. Est-ce que je me considère comme un exil ou est-ce qu'au contraire j'essaye de m'attacher le plus possible à toutes les choses matérielles qui m'entourent ? Quand on voit la façon dont parfois nous couvrons nos enfants de cadeaux, on peut se poser la question, est-ce que vraiment vous aidez vos enfants à comprendre qu'ils sont en exil ? Enfin, page 16, sur le polycopier, en haut. Donc, haut de la page 16. Dieu tresse une belle couronne à partir des prospérités et des épreuves de la vie de Christ et des chrétiens. Quand Joseph... Ça, c'est un passage un peu différent. Quand Joseph vit son épouse enceinte, il fut sérieusement troublé. Mais un ange vint à lui, chassant son soupçon et toute crainte. Puis vient la joyeuse adoration des mages, mais aussitôt suivie de la persécution d'Hérode et de la fuite en Égypte. Alors, une petite note importante. Donc, le martyrologe romain, qu'on utilise pour l'office de prime, assigne au 7 janvier le retour du Christ des Juifs, d'Égypte. Pardon. Certains prétendent qu'il y passa 3 ans, d'autres 7 ou 8 ans. Mais en fait, rien n'est certain sur ce point précis. Donc, Il n'y a pas de date précise, de temps précis pour notre Seigneur Jésus-Christ en Égypte. Certains disent qu'il a passé même jusqu'à 9 ans. On ne sait pas très bien. Mais on ne sait pas exactement quand il est revenu. Alors, rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ châtie ceux qu'il aime. Rappelez-vous ce que ce magnifique texte de Sainte Thérèse d'Avila, je répète souvent en sermon, notre Sainte Thérèse qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ, Sainte Thérèse d'Avila au Seigneur, quand je vois la façon dont vous traitez vos amis, c'est pas étonnant que vous en ayez si peu. C'est exactement notre histoire. Nous sommes des chrétiens, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que justement nous sommes des chrétiens, mais parce que nous sommes des chrétiens, nous devons porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alors nous allons arrêter là. Avec la grâce du bon Dieu, donc nous recommencerons donc mardi prochain. Donc aujourd'hui c'est 13, ce sera donc le 20. Le 20, 20 mars, lendemain de la fête de Saint-Joseph, nous reprendrons ce cours. Je supprimerai sans doute le cours pendant la semaine sainte, le cours d'exégèse et le cours Saint Thomas d'Aquin, parce que pendant la semaine sainte, j'ai une petite retraite à prêcher ici, donc je vais être trop occupé pour donner les cours. Terminons par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.